Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 16 janvier, les titres de notre journal local. Une convention a été signée mercredi 15 janvier entre la ville de Clermont-Lérault et le parquet de Montpellier. Visant à répondre aux incivilités, elle donne des pouvoirs étendus au maire de la commune. Faire vivre le nouveau front populaire sur la circonscription de l'Hérault, c'est la proposition d'un collectif citoyen. Une rencontre est d'ailleurs prévue ce soir à 18h dans la salle municipale de Villeneuvette. Nous nous entretiendrons avec Elsa, une des animatrices de ce collectif local. Un projet de retenue hivernale, petit nom donné à une méga-bassine, donc une retenue hivernale prévue à Coulobre, au nord de Béziers, qui devait être financée par le département, a été abandonnée. Nous terminons avec la fin de la grève à la poste de Clermont-Lérault sur le site des Tannebasses. Nous l'avons évoqué mardi matin dans notre journal. Et nous nous entretiendrons avec Aymeric Bazalgette, secrétaire général du syndicat départemental CGT, de la Fédération des activités postales et de télécommunications, pour comprendre les raisons de ce conflit social et sa résolution. La mairie de Clermont-Lérault vient donc de paraffer une convention dite de rappel à l'ordre avec Fabrice Bellargent, procureur de la République de Montpellier. Selon le magistrat, alors attention, je le cite, on répond très mal aux faits d'infrapénal lorsque l'on sort l'artillerie lourde. Fermez les guillemets. Pour le procureur, il s'agit donc de remettre le maire au centre de ses prérogatives en matière d'ordre public et d'en faire l'acteur de proximité, aussi dans le domaine judiciaire. C'est sans doute le premier interlocuteur que vont rencontrer les personnes qui ont commis des infractions légères et vont officiellement se faire rappeler à l'ordre. C'est un rappel sans frais, mais qui préjuge de choses plus graves si la situation ne devait pas se calmer. Ainsi s'est exprimé le procureur. Selon lui, le dispositif devrait permettre de s'affranchir de la lourdeur de la mécanique judiciaire et apporter une réponse simple et rapide après avis du parquet. Toujours selon le magistrat, on instruit votre proposition, on vous dit si la personne est déjà connue, si cela nécessite une procédure judiciaire ou pas, et vous pouvez ainsi aller en toute confiance sur une procédure de rappel à l'ordre. Pour Fabrice Bellargent, la signature de cette convention a été l'occasion de lancer un appel à des partenaires de travaux d'intérêt général, les fameux TIG, en précisant que l'on ne peut envoyer tout le monde en prison, c'est une bonne nouvelle, et tous les faits ne méritent pas la prison. Il a souligné la surpopulation carcérale à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones en rappelant, je cite, 110 matelas au sol et des cellules de 4 qui deviennent des cellules de 6 et une situation en train de devenir irrespirable. Le procureur de la République de Montpellier a affirmé que le travail d'intérêt général fait partie des réponses pénales et constitue ainsi une vraie sanction, une sanction concrète. Alors qu'est-ce qu'on entend par incivilité ? Eh bien, aussi bien l'abandon de déchets sur la voie publique, la consommation de protoxyde d'azote ou l'absentéisme scolaire par exemple. Le rappel à l'ordre s'adresse autant aux majeurs qu'aux mineurs. Mais en 2024, seuls 210 de ces procédures simplifiées ont été réalisées alors que près de 80 000 procédures et plaintes sont traitées annuellement. Donc Clermont-Lérault devient la 20e commune signataire du département. Le maire de la commune, Gérard Bessière, a assuré le procureur de sa volonté d'utiliser le dispositif ainsi que la procédure de transaction dont la convention a également été signée. Une procédure de transaction, qu'est-ce que c'est ? Pour diverses contraventions commises au préjudice des biens communaux, la procédure de transaction, c'est la possibilité pour le ou la maire de proposer à l'auteur majeur une transaction visant à réparer le préjudice, soit une indemnisation financière, soit l'exécution au profit de la commune d'un travail non rémunéré, maximum de 30 heures. Nous sommes en ligne avec Elsa, une des animatrices du collectif Faire vivre un nouveau front populaire, qui propose ce jeudi à 18h à la salle polyvalente de Villeneuvette une rencontre citoyenne. Elsa, en préparant cet entretien, vous me disiez qu'une dynamique s'était créée localement suite à la campagne du nouveau Front populaire pour les législatives, campagne dans laquelle de nombreuses personnes se sont investies. Malgré la défaite du député La France insoumise, Sébastien Rome, sur la 4e circonscription de l'Hérault, élection remportée par la députée Rassemblement national Manon Bouquin, et la réélection de Stéphanie Galzi sur la 5e face à Aurélien Manin, Stéphanie Galzi également Rassemblement national, il y a, me disiez-vous, la volonté de continuer à rester mobilisé et à être actif et active sur les territoires. Est-ce que vous pourriez nous détailler la genèse de cette mobilisation citoyenne qui ont lieu, enfin de ces rencontres en tous les cas, qui ont lieu chaque premier jeudi du mois, depuis le mois d'octobre, je crois ?
Oui, tout à fait. Ben, comme vous le disiez, au moment de la campagne, il y a eu voilà, une mobilisation très forte et qui n'avait en tout cas de paroles d'anciens militantes et militants jamais été aussi forte autour d'une élection dans ces dernières années de scrutin, avec des gens ben, voilà, de tous horizons, mais de sensibilité de gauche, mais de tous horizons, en tout cas sociaux, professionnels et au niveau de l'âge aussi, très, très mélangés, qui se sont réunis pour faire barrage au Front National et essayer de valoriser, de faire gagner les idées de la gauche. Et malgré les défaites hein, que vous avez soulignées en préambule, y a, cette mobilisation reste vivace et l'idée c'est de l'entretenir pour continuer à imaginer des actions, continuer à faire du lien, continuer à se rencontrer, à débattre et puis à faire essaimer des initiatives citoyennes sur le territoire autour des idées de la gauche qui animent toutes ces personnes. C'est vraiment le dénominateur commun. C'est les idées, les valeurs de gauche contre celles du Rassemblement national qui sont de plus en plus fortes sur notre territoire.
Donc il y a eu des premières rencontres en octobre à Gignac, c'est ça, du côté de Gignac?
Oui, à Gignac, il y a eu une première rencontre à l'initiative de l'ancien député de la 4e circonscription, donc Sébastien Rome, et de son ancienne équipe, qui se sont donné comme mission hein, de continuer à entretenir ou en tout cas à propulser un petit peu la dynamique post-élection, parce que tout le monde a été quand même un petit peu sonné par ce qui s'est passé dans l'été et puis ce qui ne s'est pas passé comme on l'espérait. Voilà, Sébastien Rome a un peu initié ça, mais il y a de plus en plus de membres de cette dynamique et de ce collectif citoyen qui se prennent en main pour faire vivre ce collectif et son dynamisme en dehors de tout parti. On a décidé de se réunir les premiers jeudis du mois. Donc là, on a dû décaler un peu en janvier pour des histoires de logistique et de salles. Donc on se voit ce soir, jeudi 16, pardon. Mais sinon, c'est chaque premier jeudi du mois pour essayer de se donner un rendez-vous régulier pour entretenir la dynamique, faire rentrer aussi des nouvelles personnes dans ce mouvement et rester soudés et unis parce que chacun a ses occupations professionnelles, ses rythmes, sa vie et c'est parfois difficile de trouver du temps. Mais avec ce rendez-vous très régulier, on arrive quand même à rester dans une dynamique collective.
Et vous me disiez qu'une de vos ambitions également, c'était de témoigner et d'observer la pratique ou des députés RN des 4e et 5e circonscriptions de l'Hérault.
Oui, ça nous paraît vraiment un axe important. Au moment de la campagne, on a été au devant des électeurs et des citoyens de notre territoire à la sortie des écoles, à la sortie des grandes surfaces, sur les marchés, pour essayer d'engager un dialogue autour de ces élections et de ce scrutin. Et ce qui nous a paru vraiment important, c'est de pouvoir retourner au devant des habitants et des habitantes pour leur témoigner de l'action des députés qui ont été élus et d'être vraiment sur du concret et pas que sur des grandes idées politiques. C'est ce qui nous anime évidemment, les grandes valeurs, mais c'est important d'être sur du concret quand on débat avec des gens qui partagent pas forcément nos opinions et de pouvoir dire les députés, donc Madame Galzi, Madame Bouquin, ont ou non pas défendu tel ou tel projet à l'Assemblée ou sont allés sur ce terrain-là. Est-ce que vous reconnaissez vraiment là-dedans pour pouvoir engager des discussions très concrètes avec des potentiels électeurs RN ou des gens indécis qui ont tendance à nous dire aussi que tout le monde est dans le même panier. C'est important de montrer que non, quand même, en fait, c'est pas tout à fait vrai et que les députés ont une action qui ont des retentissements concrets. C'est important d'en rendre compte et si on fait pas ça, personne le fait, quoi. Donc on s'est dit que c'était un axe à travailler.
Et pour terminer, Elsa, pour cette réunion cette première réunion de janvier, ce soir, jeudi à 18h à la salle polyvalente, salle des fêtes de Villeneuvette, est-ce que ces réunions mensuelles, elles ont un thème, un ordre du jour? Enfin, comment ça se passe en fait?
Alors, elles ont un ordre du jour, puisque d'une réunion sur l'Oise, il y a quelques chantiers qui ont été ouverts en octobre et qui, donc, là, sont en cours d'élaboration. Il y a des personnes qui ont souhaité se mobiliser sur des thématiques. Donc, parmi elles, il y a la question de la sécurité sociale alimentaire, il y a la question de la viticulture, il y a ce fameux observatoire de ce que fait la députée Bouquin à l'Assemblée pour pouvoir en rendre compte à nos concitoyens. Donc, l'idée, c'est de faire un point sur voilà, où on en est de ces actions-là. Est-ce qu'il y a des choses en préparation, une rencontre publique avec des intervenants qu'on aurait invités ou une action de soupe populaire sur un marché. Enfin voilà, l'idée c'est de se faire un point régulier, de proposer éventuellement des nouvelles actions s'il y a des envies, des besoins, et puis bah, de continuer à se voir pour se donner du courage, ce qu'il en faut quand même, et puis voilà, se fixer un peu des objectifs à court terme. Donc voilà un petit peu les objectifs de cette réunion de ce soir.
Je vous remercie Elsa, bonne réunion ce soir à la salle polyvalente de Villeneuvette.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Je vous le disais dans le sommaire de ce journal local, un projet de retenue hivernale à Coulobre a été abandonné. Alors par retenue hivernale, on entend retenue d'eau hivernale ou retenue collinaire, il faut entendre une méga-bassine. Donc le conseil départemental de l'Hérault y a renoncé après la mobilisation d'habitants qui contestaient un projet, selon eux, surdimensionné. On parle d'un réservoir de 600 000 m3 occupant 12 hectares. Donc 12 hectares, c'est à peu près l'équivalent en superficie de 16 terrains de foot avec des digues de 6 mètres de haut. Pour le département, l'eau puisée dans le vaste réseau souterrain de BRL. BRL, si vous le voyez quelque part, BRL, ça veut dire la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Baronne-Languedoc. C'est une compagnie qui a été créée en 1955 pour transporter l'eau du Rhône dans les cultures. Donc toute cette eau, hein, puisée dans ce réseau souterrain, aurait été destinée aux agriculteurs, plus particulièrement aux vignerons, durant l'été, pour pallier les sécheresses qui sévissent depuis quelques années, des sécheresses qui deviennent quasiment chronique en fait. Donc ce projet de bassin s'inscrivait dans le cadre du schéma départemental Hérault Irrigation qui a été mis en place en 2018 avec un budget de 300 millions d'euros pour au départ 9 sites étudiés. Des sites qui sont qualifiés de stratégiques par le département sont ainsi en projet dans le Biterrois à Florensac pour 950 000 m3 et à Pouzol-l'Étang pour 700 000 m3 d'eau par an. De la retenue de Pouzol-l'Étang dépendraient deux autres réservoirs, dits secondaires, donc un deuxième à Pouzol, un troisième à Malagas, et de Malagas partiront encore deux autres réseaux pour deux autres bassins, un à Autignac et l'autre à Cossignejoul. Donc pour les habitants de Coulobre, là où cette méga-bassine n'aura finalement pas lieu, ne sera pas construite, pour les habitants de Coulobre, dont certains étaient regroupés au sein de l'association Terre de l'Aisne, ou pour des organisations environnementales comme France Nature Environnement ou la Coordo 34, Coordo OEAU, il faudrait d'abord changer les pratiques agricoles avant de prévoir l'installation de retenues collinaires, retenues hivernales ou méga-bassines. Nous avons évoqué mardi matin dans notre journal la fin de la grève à la poste de Clermont-l'Hérault sur le site des Tannebass et nous terminerons donc ce journal avec Aymeric Bazalgette, secrétaire général du syndicat départemental CGT de la Fédération des activités postales et de télécommunications. J'espère que je l'ai bien dit, monsieur Bazalgette, pour comprendre donc les raisons de ce conflit social et sa résolution. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les salariés du site des Tannebass se sont-ils mis en grève le 31 décembre?
Bon, bah déjà dans un premier temps, par rapport au manque de personnel, à des positions de travail qui n'étaient pas remplacées et qui engendraient, on va dire, le découpage de tournées avec un trafic qui se rajoutait sur les agents qui eux étaient présents. Mm-hmm. Donc en priorité c'était ça, et puis quand même une forme de management assez toxique, assez violent, qui avait tendance à se diffuser, à se généraliser dans l'établissement. Donc voilà, un ras-le-bol et les agents donc qui se mettent en grève dans ce cadre-là.
Donc c'était un conflit social assez long, presque 2 semaines. Vous êtes parvenu à un accord ou à un protocole signé avec la direction de l'établissement ?
Bah oui, mais ça prouve que avec un peu de bonne volonté, on arrive à trouver des solutions. Le problème, c'est que si le conflit s'est avéré aussi long, bah c'est que la direction refusait de discuter et de trouver des accords avec la section syndicale en local. Mmh. Ils exigeaient la venue d'un délégué syndical par tout un tas de moyens et de qui relevaient parfois de la mauvaise foi. La direction refusait d'ouvrir des négociations. Donc, je peux dire très honnêtement que dès lundi dernier, nous étions totalement en capacité juridiquement et réglementairement d'ouvrir la discussion. Il a fallu malgré tout attendre jeudi pour trouver un accord dès la première séance de négociation.
Ok, donc vous avez repris le travail, les salariés du site ont repris le travail lundi 13 janvier.
Oui.
Est-ce que vous avez obtenu des titularisations de postes? Est-ce qu'il y a eu des embauches?
Oui. Alors on a eu l'assurance d'une embauche donc pour remplacer la position de travail d'une élue du personnel hein, qui ne, mm-hmm. n'est pas de mon organisation syndicale mais qui n'était pas remplacée. Mm-hmm. Donc ça c'était le premier engagement et c'était le préalable à toute reprise. Et puis après on a eu aussi des engagements au niveau du management et plus précisément de la façon dont on s'adresse aux salariés et dont où la direction fait peser parfois des problématiques qui relèvent du manque de personnel sur en accusant les salariés de pas être assez performants, ils ont les épaules larges, donc principalement c'est là-dessus qu'on a réussi à trouver un accord hein. On a signé un accord vendredi dans la soirée donc les salariés samedi ont décidé de reprendre le travail. En plus de tout cela, on a réussi aussi à régler quelques questions matérielles hein, des questions de flasheurs hein, vous savez c'est les outils avec lesquels on enregistre les colis. Mm-hmm. Il y en avait tout un tas qui était en panne qui ne fonctionnait pas. La poste disait jusqu'à maintenant c'est trop cher, on les remplace pas. Bon, on en a réussi à avoir comme acquis aussi le fait de remplacer ce matériel qui était défectueux et qui empestait pas mal la vie des salariés.
Dernière question, Monsieur Bazalgette, est-ce que cette situation là aussi des tannes basses de la poste, les cadences, le sous-effectif, le management que vous avez qualifié de toxique, je crois, est-ce que c'est des situations qu'on retrouve ailleurs dans d'autres sites de la poste?
Oui, tout à fait. C'est généralisé. Hein. Le problème, c'est que les sous-effectifs, c'est chronique. Hein, maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, hein, c'est des plans sociaux déguisés hein, qui sont en train de se diffuser, de se généraliser au sein de la Poste depuis maintenant très longtemps. Hein. La libéralisation des activités, hein, c'est ça hein, qui a causé ces problèmes-là. Et puis au niveau du management, on voit que c'est des réunions, ce qu'on appelle des briefs, de la communication tous les matins, mais à tous les niveaux, c'est c'est des brimades, que ce soit au niveau de l'encadrement de proximité, puis après automatiquement ça redescend et ça vient frapper de plein fouet les salariés de l'exécution aussi. Donc après on a des problèmes au courrier avec certes du courrier qui baisse et un trafic lettres qui baisse, mais aussi la mise en place de tout un tas de nouveaux services à la personne, passage de permis de conduire, etc., etc. Et pour bon nombre de ces services, alors là je parle pas du permis de conduire parce que là il y a des moyens dédiés, mm-hmm. mais pour pas mal de ces nouveaux services, c'est des services qui ne sont pas comptés dans les organisations du travail. Et donc, on les rajoute en plus du trafic, au fur et à mesure des contrats qui se passent avec d'autres prestataires, des sous-traitants, etc.
C'est-à-dire qu'on demande d'assurer de plus en plus de tâches en plus du métier à proprement parler de postier, postière, facteur, factrice.
C'est ça, c'est ça. Et pas toujours avec des organisations qui suivent et où on compte et où on quantifie ces services dans l'organisation du travail.
Ok. Eh bien, monsieur Bazalgette, je vous remercie pour cet entretien. Bonne journée. Bonne
soirée. Merci à vous, bonne journée.
Au revoir. Au revoir. Pour terminer ce journal sur une note un peu plus festive, je vous conseille Radical, R-A-D-I-K-A-L. C'est un cabaret féministe et interactif. Dans l'espoir d'une prise de conscience par tous et toutes, dixit les organisatrices et autrices, ce cabaret festif aura lieu dimanche 19 janvier 2025 à 17h à la Mégisserie de l'Audève, quai de la Mégisserie. Les réservations sont au 09 75 47 27 23. 09 75 47 27 23. C'est la fin de ce Zoom Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, vendredi, à 18h10 pour le reportage de la semaine. Mardi 21 à 8h pour le prochain journal local. Et on continue sur les ondes de Radio Pays d'Hérault, RPH1, avec Au plaisir des mots, l'émission de Jean Montussac. Bonne soirée à tous et toutes.